Aujourd'hui, samedi 17 avril, à votre magazine radio In Situ, place à la 13e édition du Festival Art Souterrain en compagnie du directeur général Frédéric Loury et des chroniqueurs Lila Maître et Pierre Archambault. Et on parlera aussi du Festival Vue d'Afrique qui s'intensifie cette fin de semaine, car cette deuxième édition numérique de l'événement se termine ce dimanche 18 avril 2021. Et oui, il y avait quelques films en art visuel. Alors, très bonne émission à l'antenne de Radio Centre-Ville 102,3. Bon samedi et très bienvenue à votre magazine Radio In Situ dédié aux arts visuels et aux disciplines connexes, toutes tendances. Alors, au micro, Chantal Lheureux à l'animation et à la réalisation de ce rendez-vous radiophonique hebdomadaire qui se veut exploratoire, inspiré, créatif, alors soutenu chaque semaine par notre dévoué technicien à la mise en onde, Robert Loca, aussi assigné au montage, au volet de la promotion et de la technique et de la chronique occasionnelle. Alors, et je vous invite bien sûr, comme à chaque semaine, à visiter les différentes plateformes de l'émission sur Facebook et WordPress Magazine In Situ pour un complément d'informations. Il y a des publications presque à tous les jours. Alors, débutons, cher auditoire, et j'espère que vous portez très bien cette fin de semaine. On annonçait de la grisaille, mais finalement, il y a des éclaircies. C'est encourageant. Alors, débutons avec la 13e édition du Festival Art Souterrain qui se poursuit jusqu'au 30 avril et qui propose un volet physique s'ajoutant au volet virtuel depuis le 10 avril dernier. Alors, rappelons que le thème de cette édition est bien sûr celui de la chronométrie. Alors, dans notre société décrite comme technologique, économique, capitaliste, de consommation, alors une chronométrie considérée comme de plus en plus rapide, qui s'impose à nous et qui dicte nos choix de vie et de relations. Alors, phénomène dont on prend de plus en plus conscience depuis un an, en ce contexte de pandémie. Alors, une 13e édition qui a dû beaucoup s'adapter, alors ça tient de l'exploit, qui a dû beaucoup adapter son volet physique au contexte de la pandémie et qui a dû réduire l'étendue de l'exposition à seulement 3 trajets au lieu de 6 comme l'année passée. Alors, pour en savoir davantage sur cette expérience vécue avec ses hauts et ses bas, cette expérience vécue par le Festival Art Souterrain, en période de mesures sanitaires assez strictes, nous avons posé quelques questions à Frédéric Loury, à la direction de l'événement, et que nous avons rencontré hier sur le site même du Festival Art Souterrain, en compagnie de notre chroniqueur Pierre Archambault, qui va se prononcer sur l'événement un peu plus tard dans l'émission, ainsi que Lila Maître. Alors, oui, après cet entretien avec Frédéric Loury, suivra un retour sur l'exposition en compagnie de nos deux chroniqueurs qui ont vu Art Souterrain. Alors, voici cet entretien en question avec Frédéric Loury. Mission accomplie. Le volet physique du Festival Art Souterrain est bel et bien exposé depuis le 10 avril, mais que d'obstacles il a fallu surmonter pour l'équipe. Et à mes côtés, Frédéric Loury, pour nous parler un peu de tous ces préparatifs les plus laborieux avec lesquels l'équipe a dû composer. Bienvenue, Frédéric Loury.
Bonjour. Oui, c'est sûr que je ne vous détaillerai pas l'ensemble des écueils que nous avons vécus, mais je peux vous dire une chose, c'est que ce festival, cette 13e édition, certains me disent d'ailleurs 13, c'est un chiffre qui porte malheur. Moi, je vous dirais que pour nous, il nous porte bonheur. Il nous porte bonheur parce qu'on a réussi, malgré tout, malgré les différents défis, les surprises qui ont été multiples pendant ce dernier 6 mois de préparation, d'arriver à livrer une forme physique de festival et pas simplement un volet numérique. Et pour ce volet physique, croyez-moi, ça a été toute une aventure. On a donc, jusqu'au dernier moment, on ne savait pas si le festival allait pouvoir être offert au public. On a eu comme nouvelles, et moi je m'attarderai peut-être plus aux nouvelles les plus récentes, parce que c'en est presque drôle, malgré le fait qu'il n'y ait pas de responsable à l'intérieur de ces différents choix et des différentes conséquences qu'on a vécues. Mais la veille de notre montage, on a appris que les horaires avaient changé dans tous les édifices, et donc le public n'aurait pas accès aux œuvres le week-end, à l'exception du Palais des Congrès. Que le réseau souterrain, une semaine auparavant, le réseau souterrain devait être fermé.
Donc, décision inimaginable.
Inimaginable, oui. Parce qu'on venait de nous imputer de à peu près 40% de la programmation.
Oeuvre donc, il y a des œuvres qui sont exposées qui ne sont pas accessibles au public. C'est ce que vous nous dites, Frédéric Loury?
Oui, en effet. On a, alors, au moment où on se parle, nous avons, toutes les œuvres sont déployées sur le circuit. Ça veut dire qu'il y a, comme je le disais, il y a un certain nombre de projets d'artistes qui sont en place, mais non accessibles au public. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est de documenter l'ensemble de ces œuvres à travers une expérience 360 et la proposer au public à la fin du festival. Et ça, je veux dire, pour moi, c'est une édition qui était une édition hommage aux artistes et aux travailleurs culturels.
C'est d'abord... Ça a été votre grand leitmotiv, hein, vouloir vraiment aider les communautés artistiques en période de pandémie.
Oui, les artistes comme les artistes...
Prioriser la communauté artistique.
Oui, tout à fait. Donc, l'ensemble de ces acteurs, de ces travailleurs culturels ont beaucoup souffert cette dernière année. Et moi, ce festival, je leur dédie. Jusqu'au bout, on s'est attaché à cette volonté de pouvoir servir la communauté, offrir aux artistes la possibilité d'être vus sous différentes façons, que ce soit virtuellement ou physiquement. Et pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on s'est fait en termes de communauté, parce que on a aujourd'hui...
Vous avez dû lutter pour l'emplacement des œuvres d'art, c'est ce que vous me disiez, là, au point de penser à un concept de couverture 360 degrés, là?
Oui, en effet, on a déplacé les œuvres plusieurs fois. En effet, chaque œuvre représentait un obstacle pour le bien commun, en vue de respecter les différentes consignes gouvernementales. Et donc, il a fallu être plus que flexible, agile, et d'avoir cette capacité de pouvoir changer la scénographie, repenser les espaces, et tout ça avec le consentement et la participation extraordinaire des artistes, parce que on peut, nous, de notre côté, en amont, prendre des décisions, mais si elles ne sont pas suivies par des personnes qui ont foi et qui ont cette volonté de nous suivre, ça ne peut pas s'avérer possible. Donc, je suis hyper reconnaissant de la façon dont tout ça s'est construit, et je vous le dirai qu'à la fin, j'en garderai un souvenir très positif, parce que le nombre de témoignages qu'on a reçus de la part de la communauté des arts, depuis les artistes, les deux commissaires invités, pour moi, il est là le cadeau. C'est un cadeau, et c'est un cadeau qui est nécessaire d'exhiber au public, parce que moi, je me suis beaucoup questionné pendant cette pandémie sur le rôle et le statut de l'art dans la société.
Oui, mon Dieu, oui, absolument.
On s'est vraiment rendu compte à quel point l'art a été meurtri, peu considéré. Il y a eu très peu d'opportunités, d'options pour inclure les différentes disciplines, finalement, dans la solution. On sait que l'art est thérapeutique. Oui. On sait que l'art aussi est nécessaire pour l'équilibre, un équilibre autant mental.
Et que l'art est un travail.
Et que l'art est un travail, évidemment. Oui. Et donc, pour toutes ces raisons-là, je ne puis que dire merci. Merci aujourd'hui de pouvoir présenter autant d'œuvres de qualité sur un thème qui est, même s'il a été choisi il y a 2 ans, qui s'inscrit en pleine adéquation avec la pandémie. Chronologie, c'est la mesure du temps, c'est la temporalité. On n'a jamais eu autant de temps. Oui. Jamais autant. D'ailleurs, on n'a jamais su autant quoi faire. On n'a jamais été autant perturbé aussi, oui, par le manque de vision associé à ce temps. Et donc, chaque œuvre que vous pourrez découvrir à l'intérieur du festival, on a l'impression qu'elles ont été conçues en rapport avec les réactions que nous vivons, liées à cette temporalité qui a été stoppée, allongée, qui en fait nous amène à beaucoup d'incertitudes, mais aussi à reconnecter avec nous-mêmes et avec nos semblables.
Alors, Frédéric Loury, qu'adviendra-t-il de ces œuvres qui ne sont pas accessibles au public? C'est une question qu'on peut se poser.
Alors, ces œuvres, elles sont bien physiques, elles sont accessibles, ouais, évidemment, pour un très petit groupe d'individus, mais elles seront représentées via une expérience virtuelle qui sera qui sera présenté le 1er mai.
C'est important.
Oui. Donc le 1er mai, on va dévoiler cette expérience virtuelle 360 où on verra les œuvres dans leur contexte actuel. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui sont absolument magnifiques, sont très pertinentes. On a beaucoup à apprendre d'ailleurs de ces différents langages et de la façon dont les artistes ont composé en se questionnant de cette fameuse notion de temps.
Et vous savez aussi, alors écoutez, donc 1er mai, une date importante à retenir pour rendre justice à tout ce travail exposé auquel nous n'aurons pas pu avoir accès. Et de plus, il y aura de l'animation. Hein. Vous avez des différents événements qui s'en viennent physiques, qui font partie du volet physique. La vision d'artiste, parcours, influence.
Oui, en effet, il y a toujours beaucoup d'incertitudes. Hein. Quand on parle d'activités et d'événements physiques jusqu'au bout, on ne sait pas si elles vont bien avoir lieu. Je peux simplement vous conseiller d'aller sur notre site et de consulter le calendrier qui est très à jour. On le met à jour quotidiennement de façon à ce que puisse avoir des personnes comme ça qui ne viennent pas à notre rencontre et que l'activité a été annulée. Mais oui, en effet, il y a encore pas mal de contenu qui nous reste pour ces deux prochaines semaines.
D'accord. Espérant pouvoir profiter de la présence de certains artistes, peut-être certaines journées en semaine.
Oui, absolument. Alors, pour les plus courageux, l'ensemble des édifices sont ouverts en semaine jusqu'à 17h. Et le week-end, le Palais des Congrès nous fait l'honneur d'ouvrir ses portes. C'est d'ailleurs un centre de vaccination. Et donc, on arrive à concilier avec ces différentes nouvelles vocations. Et le déplacement vaut vraiment la peine.
Merci beaucoup, Frédéric Loury. Bon festival. Hein? Et félicitations d'avoir surmonté autant d'obstacles pour nous présenter une exposition vraiment inspirante.
Merci beaucoup.
Après cet entretien avec Frédéric Loury, il faudrait ajouter aussi que à ces nombreux problèmes survenus s'ajoute une autre nouvelle moins réjouissante, c'est-à-dire que nous avons constaté hier qu'une œuvre au Palais des Congrès a été retirée de l'exposition. Et cette œuvre, vraiment, écoutez, je vais vous retrouver mes notes parce que c'est une nouvelle de dernière minute. C'est celle de Ryan Brown et ça s'intitule Let the Sleeping Dogs Lay. Alors elle n'est plus au Palais des Congrès, semble-t-il, en raison des réactions du public. Alors nous ferons enquête sur cette œuvre qui a été retirée et nous donnerons un peu plus d'informations, des informations plus complètes la semaine prochaine. Alors nous retrouvons avec grand plaisir Lila Maître, qui a vu pour nous cette exposition dans plusieurs secteurs de l'exposition Festival Art Souterrain. Alors bienvenue Lila.
Bonjour Chantal.
Bonjour. Comment vas-tu par cette journée? Eh bien, il y a de l'espoir, il y a des éclaircies aujourd'hui.
Oui, ça fait plaisir. Un peu de beau temps après ces journées de pluie.
Oui, ça ne sera pas la grisaille aujourd'hui. Alors, tu as visité cette exposition abrégée du Festival Art Souterrain 2021.
Oui. Alors, donc, je suis allée faire un tour au Palais des Congrès de Montréal, au Centre de commerce mondial de Montréal à la place Victoria, donc qui sont les trois lieux où on peut voir quelques œuvres du festival. Et donc parmi toutes ces œuvres, y en a quelques-unes qui ont pas mal attiré mon attention.
Oui.
Donc la première que j'avais sélectionnée, qui est celle de l'artiste Bertrand Plane.
Oui.
Qui est un artiste qui est d'origine basée en France. Et son œuvre s'appelle Random Clock. Et en fait, elle se compose juste d'une simple horloge, donc qui est un peu comme une sorte d'horloge qu'on peut retrouver dans toutes les cuisines du monde.
Oui.
Une horloge blanche, normale. Mais la particularité qu'a cette horloge, c'est que l'aiguille des secondes n'est pas régulière, c'est-à-dire qu'elle va bouger dans une vitesse qui est aléatoire, qui est comprise entre 0 et 2 secondes. Donc c'est-à-dire que on n'a plus la régularité du temps que peut avoir donc une horloge classique et donc là ce qui arrive c'est que évidemment l'horloge finit n'est plus à l'heure mais elle est approximativement à l'heure. Donc par exemple moi quand j'y suis allée,
oui.
L'horloge montrait 4h10 de l'après-midi et en fait il était 3h30. Donc c'est-à-dire qu'il y avait environ 40 minutes de délai. Et en fait, ici, là, ce que l'artiste donc voulait faire avec cette œuvre-là, et ce que j'ai trouvé une bonne approche justement de ce thème de chronométrie qui est le thème du festival, c'est surtout de notre propre perception du temps. C'est-à-dire que nous, sans horloge, on peut savoir à peu près l'heure. Donc, je peux savoir que là, on est en fin de matinée en ce moment, mais sans avoir exactement l'heure exacte. Et c'est un peu ce que cette horloge-là, donc cette simple horloge, représente. Donc c'est notre perception à nous du temps. Alors. Donc j'ai trouvé que c'était un bon moyen justement de montrer ça.
Et ça suscite donc une prise de conscience chez le public qui voit cette œuvre-là, une horloge qu'on peut retrouver un peu partout, même dans des établissements publics, tels que des écoles. Hein?
Oui, exactement.
Ça rappelle les horloges de mon école.
Voilà, de prendre une horloge qui est un peu cet objet du quotidien, puis surtout cette horloge-là qui est donc toute basique et qui est cet objet du quotidien et qui est un peu présent partout, mais qu'on remarque plus vraiment, mais pourtant qu'on regarde un peu tous les jours, on regarde tous les jours régulièrement l'heure qu'il est. Donc c'est un objet qu'on oublie, mais en même temps qui est quand même essentiel à nos journées.
Alors c'est une œuvre qui t'a particulièrement marqué, Lila, que tu as retenue en premier. Hein?
Oui, oui, mais parce
toute
que
simple,
j'ai bien
mais...
aimé le fait que ça soit juste une horloge toute simple, mais oui. En même temps que le fait que les secondes soient irrégulières, ça nous pose toutes ces questions-là. Donc c'est ça, j'ai trouvé que c'était assez fort de la part de l'artiste.
Et ça nous connecte directement à la thématique de cette année, chronométrie. Alors, tu as sélectionné d'autres œuvres au cours de ta déambulation.
Oui, donc cette œuvre-là, elle est présente à la Place Victoria. Une autre œuvre qui est présente au même endroit, c'est celle de La Vitrine, de l'artiste Pascal Leblanc-Lavigne,
oui.
Qui est une artiste québécoise.
C'est quelque chose.
Et en fait, il s'agit d'une installation, donc c'est une œuvre robotique. Et on voit donc des bras robotiques qui sont sortis de chiffons au bout et qui sont en fait derrière une vitrine transparente. Et en fait, ces bras et donc ces chiffons ont un mouvement rotatif qui fait qu'ils nettoient la vitrine. Et à côté, on a aussi d'autres bras robots toujours qui régulièrement vont mettre du produit, donc vont pulvériser du produit à vitre, donc sur cette vitrine transparente. C'est-à-dire qu'en fait, on voit donc un bras robot va pulvériser la vitre tandis que l'autre va essuyer donc rotativement le produit. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à force d'essuyer toujours cette vitrine, en fait, la vitrine, au lieu d'être nettoyée, va finir par être salie par le produit. Donc, on va voir... moi, quand j'étais allée, il y avait déjà des traces de produits qui avaient coulé sur la vitre, donc avaient laissé un peu des traces donc sur la vitre. Et donc, toujours avec cette notion du temps, mais cette fois, de cette notion de la dégradation, puisque avec le temps, en fait, la vitrine va être de plus en plus sale, les chiffons vont s'abîmer à force de toujours nettoyer, toujours d'avoir une forme rotative. On va avoir la trace aussi des chiffons et du rond des chiffons à force de faire toujours le même mouvement. Les bras vont s'abîmer. Donc c'est aussi cette répétition de mouvement qui fait que l'œuvre finit en fait par s'abîmer.
Et c'est une œuvre donc qu'on pourrait décrire comme évolutive, qu'il faut aller voir à plusieurs reprises, selon la commissaire que nous avons interviewée, Nathalie Bachand.
exactement. Donc,
jusqu'où se rendra cette...
de suivre la progression de cette œuvre.
Jusqu'où ira ce dispositif destructeur?
Et
ça
et donc toujours avec toujours cette même notion un peu du temps un peu qui passe et de l'attente. Il y a donc l'œuvre de l'artiste Cynthia Campolese qui donc l'œuvre s'appelle Reading the Real. Donc elle, c'est une artiste qui est canadienne. Et elle a fait cette œuvre-là qui se compose en fait de quatre images qui sont collées sur les vitres de la donc du bâtiment de la Place Victoria. Donc on a quatre images qui sont quand même assez grandes, qui doivent faire au moins 2 mètres, je pense.
Oui.
Et en fait, ce qu'on voit sur ces images-là, c'est des symboles donc d'états de chargement, comme on peut voir quand par exemple on a une page sur notre ordinateur qui a du mal à se charger. On a comme des petites bulles qui sont formées en cercle et puis qui tournent en rond, donc avec un dégradé de noir, et qui vont tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc elle a placé justement ces symboles-là sur un fond blanc flou. Donc les images sont un peu transparentes, mais on a un peu elles sont transparentes mais floues. Et donc avec juste ces états de chargement. Et en fait, les quatre images montrent ces bulles de chargement dans une position différente. Et ce qui en fait donne l'impression que quand on marche à travers les quatre œuvres, donc quand on les traverse, en fait, les bulles de chargement s'avancent. Donc ça donne vraiment cette impression de mouvement et puis c'est un peu état de figé, d'attente qu'on a quand on observe, par exemple sur notre ordinateur, qu'on observe fixement une page se charger et qu'on attend de voir ce qui va apparaître une fois que la page sera chargée. Et donc c'est un peu pareil quand on regarde ces images-là, on voit juste la barre de chargement mais on se demande mais qu'est-ce que ça charge, quelle image va apparaître après. Donc c'est un peu ce qu'elle a montré, c'est le moment de suspension justement de cette attente-là et d'un temps un peu suspendu.
Alors, c'est une autre façon de prendre conscience du temps imposé, cette fois par la technologie. Et ce qui est intéressant, ce que nous racontait hier Frédéric Loury en visite privée, c'est que ces quatre images identiques, bien sûr, avec le symbole de chargement, mais qui peuvent passer inaperçues parce que c'est voulu qu'elles s'intègrent à l'architecture du lieu.
Mm-hmm. Oui, c'est vrai, qu'elles ont exactement la forme des vitres.
Oui.
Le fait qu'elles soient blanches et transparentes, c'est vrai qu'on les remarque pas tout de suite, c'est pas des couleurs vives qui vont, comme on a pu voir dans d'autres œuvres, qui vont tout de suite rejaillir. Donc, je rapproche ça un peu à l'horloge, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien, qu'on voit tous les jours, mais qu'on remarque plus.
Oui. Et qu'on devrait encore remarquer. C'est le but de cet exercice dans le cadre de Art Souterrain, vraiment. Mais merci en tout cas, Lila. Observez, cher public, ne laissez rien. C'est une bonne façon, Art Souterrain, de développer votre sens de l'observation. Alors, on pourrait passer devant cette œuvre-là sans la remarquer. Fort heureusement, il y a un cartel d'importance à lire. Arrêtez-vous et lisez-le. Et après avoir bien sûr écouté l'émission en compagnie de Lila Maître. Alors, tu as d'autres œuvres dans ta sélection, Lila.
Oui, cette fois, c'est des œuvres de photographiques qui ont marqué mon attention. Et c'est les œuvres de l'artiste Kitoko Diva.
Très intéressant.
Qui est née à Paris et qui est basée à Londres.
Oui.
Et cette œuvre s'appelle Dream with Feathers, donc on pourrait traduire avec rêve à plumes. Et en fait, c'est une documentation d'un défilé de Mardi Gras en Louisiane. Et en fait, revenir à l'origine de ce défilé, hein, en 1750, il y a des esclaves qui étaient donc originaires d'Afrique qui se sont échappés et ils ont rencontré des Amérindiens qui les ont aidés à se cacher. Et donc aujourd'hui, en fait, ce festival, il continue d'être célébré à la période de Mardi Gras en Louisiane. Et en fait, elle célèbre justement la rencontre de ces deux cultures. Et c'est vraiment une partie de l'histoire, moi, que je connaissais pas du tout et que je trouve vraiment intrigante. Et en fait, on voit vraiment sur les photos ce peuple qui est vêtu des habits traditionnels, qui a repris la culture. Donc eux, ils se font appeler les Indiens du Mardi Gras. Et c'est vraiment, et en fait, on voit sur les photos qu'ils célèbrent ça avec c'est festif, c'est une ambiance festive, avec joie, avec fierté, et en même temps c'est une rencontre de deux cultures, de deux peuples aussi qui ont subi donc les affres de la colonisation, qui subissent le racisme. Mais en même temps, c'est aussi une fierté d'appartenir à cette culture-là. Et donc là, l'artiste, elle nous montre vraiment donc toutes ces images. On voit les habits amérindiens, avec les plumes, avec les broderies. Enfin, c'est vraiment des habits qui sont magnifiques, les danses. Et en fait, elle nous amène dans ce carnaval-là. Et c'est vraiment des images, je trouve, qui sont colorées pour le coup. Là, contrairement à l'œuvre précédente, là, on les voit vraiment. Parce que là c'est plein de couleurs et en même temps ça nous montre cette partie de l'histoire des États-Unis.
Oui. Et c'est une œuvre assez immersive parce qu'il y a plusieurs photos à voir et dont des photos de personnes de la communauté noire qui portent des vêtements amérindiens. Alors c'est étonnant, vraiment très intéressant.
C'est vraiment intriguant de voir la fusion de ces deux cultures.
Oui, et par rapport au temps, mais c'est qu'on remonte dans l'histoire grâce à cette œuvre-là.
Exactement.
Des traditions qui sont fusionnées, des traditions amérindiennes et de la communauté noire qui sont fusionnées à travers cette célébration du Mardi Gras annuel. Merci. Et Lila Mai, tu as aussi apprécié une autre œuvre toute petite. Donc au centre commercial mondial.
C'est celle de Juan C. Fontanive qui s'appelle Propolaso Air Mythology. J'espère que je prononce bien.
Oui.
Donc lui, c'est un artiste qui est basé à New York et en fait, il présente donc dans cette œuvre-là, c'est un flipbook. Donc c'est les petits livres là qu'on fait défiler des images et avec la vitesse, on a l'impression que ces images sont en mouvement. Et en fait, ça vient d'un corpus de 3 flipbooks et donc il y en a seulement un là qui est présenté. Et en fait, on peut voir des colibris qui sont en plein vol. Et le flipbook défile automatiquement, donc justement avec cette impression avec la vitesse des images qui défilent, on a l'impression donc que le colibri est en vol et en mouvement. Et j'ai beaucoup aimé parce que j'ai beaucoup aimé la délicatesse aussi. Oui. De la représentation du colibri, donc les couleurs sont belles et il est aussi intégré dans un paysage qui est composé de fleurs, d'arbres et en plus c'est un tout petit flipbook, mais donc on est vraiment obligé de s'approcher, de prendre le temps de vraiment regarder chaque image et d'apprécier aussi le mouvement de l'oiseau.
Oui.
Chaque image donc montre une posture différente de l'oiseau en plein vol le bruit aussi du flipbook, donc le petit flap flap flap, ça nous rappelle aussi donc le bruit du vol d'un oiseau. Donc j'ai trouvé que c'était un petit moment de poésie. Cette œuvre-là, elle est au centre du commerce, le centre de commerce mondial. Donc c'est ça, j'ai trouvé que c'était un petit moment de poésie qui nous laisse nous évader sur cet oiseau qui est en train de voler, de faire sa petite vie dans un petit paysage.
Alors Lila Maître, merci de nous avoir si bien présenté ta sélection d'œuvres, principalement, qu'on peut voir principalement au centre de commerce mondial et à la place Victoria. Hein?
Exactement.
Deux sites d'exposition vraiment que vous ne pouvez voir que jusqu'à 5 heures. L'heure du début de l'exposition me manque là en ce moment, mais ça se termine à 5 heures et bien sûr en semaine. C'est fermé en fin de semaine, malheureusement.
Il me semble que ça commence à 8 heures.
À 8 heures le matin. Oh, merci Lila Maître. Alors je te souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouve très bientôt.
Merci.
Son papa, d'autres qui ne sont plus là. Mon cousin dort dans un ravin avec 3 grammes de vodka. Impensable, la vie choisit elle-même son chemin. J'ai grandi d'un coup quand j'ai su qu'on force pas le destin. Demain c'est beau, y'aura peut-être un jour de plus, je sais pas. J'y pense à chaque fois que je suis seul ou que je suis pas chez moi. Tout est fragile, je veux jamais faire de mauvais choix. J'ai peur de voir m'engager, je fais comme si j'avais 20 ans. J'ai peur d'être toujours le prochain sur une liste d'attente. Je baisse les yeux, je vois l'avenir au bout de mes chaussures. J'ai pas le courage pour les projets de trop grande envergure. J'ai peur de finir tout seul, ouais de rester tout seul. J'ai déçu trop de filles qui avaient vu en moi leur âme sœur. Ça passe trop vite, j'ai peur de laisser passer mon heure. Je vais faire une pause, ma grand-mère est encore en vie. Mes parents savent pas que je les aime, je leur ai pas vraiment dit. Mon père est comme moi, il parle que de ce qu'il connaît pas. Mais quand il faut parler d'amour, il en parle tout bas. Y'a peut-être du temps perdu, peut-être des choses à changer. Y'a peut-être pas besoin de parler pour savoir vraiment qui on est. Je suis silencieux, j'ai beaucoup trop peur des regrets. Sur ma bucket list, déjà arrêter de penser comme un putain d'égoïste. Faire le bien autour de moi autant que je peux. Essayer chaque jour que les gens que j'aime respirent mieux. Tracer la route avec la seule qui m'aime pour ce que je suis. Me dire que la bonne c'est elle et pas celle qui m'ont pourri. Essayer de m'en désirer ce qui me détruit. Admettre qu'on peut
parle d'illusion, quand on parle de bonheur, aucune pilule fera de moi quelqu'un de meilleur. Mais profitez quand même, se rappeler qu'à la fin on meurt. Et si je suis malheureux ici, ce sera pareil ailleurs. T'es juste un corps qui essaye de s'exprimer. Le langage est trop pauvre, c'est normal de te sentir brimé. T'as des vrais potes le jour où tu te sens plus jugé. Me rappeler pourquoi je suis là, pourquoi cette vie je l'ai voulu. Pour tout le bonheur qu'on donne à ceux qui ont cru depuis nos débuts. Faire un point sur les amis et les gens qui m'ont déçu. Encore y croire, et si le succès n'est toujours pas venu. Accepter c'est comme ça, parfois y a des mystères. Et au lieu de chercher des pourquoi à tout ce que j'ai pas pu faire. Être fier de l'avoir fait avec mon grand frère.
Alors, nous retrouvons Pierre Archambault. Bonjour, Pierre.
Oui, bonjour.
Quel plaisir de te contacter. Alors, nous avons assisté à cette présentation d'exposition avec Frédéric Loury hier. Et tu t'apprêtes à nous présenter une sélection d'œuvres que tu as retenues.
J'ai choisi 5 œuvres sur la quinzaine que j'ai vues dans les 3 lieux qui sont désignés pour le Art Souterrain, soit la Place Victoria, le Centre de commerce mondial et le Palais des congrès. Parcours beaucoup plus court que les éditions précédentes, qui peut marcher, disons, dans un laps de temps de 60 à 90 minutes, dépendant si on lit tous les cartels à côté des œuvres, ce qui est quand même important pour comprendre souvent le sens des œuvres, de lire ces cartels-là, qui sont quand même faciles au niveau du format de ces cartels. Là, c'est pas des petits cartels comme on voit dans les galeries habituellement. Donc, je débute avec la Place Victoria, où se trouvent 5 œuvres, et j'ai choisi celle de Annie Briard, qui s'impose d'abord par le format gigantesque, qui est une photographie transparente, qui est collée directement sur la paroi vitrée du côté sud du Grand Hall. Alors, il s'agit là d'une superposition de 2 photos de paysages qui ont été pris, semble-t-il, dans le sud des États-Unis. Et on dit que le père de l'artiste était un géologue et l'une des photos fut captée par son père il y a quelques décennies, alors que l'autre, plus récente, est une captation de Annie Briard. Alors, cette double image crée un lien filial qui s'inscrit dans le temps et qui démontre aussi une légère modification du lieu. Mais c'est aussi le souvenir d'un père dont l'absence modifie la perception du réel. Donc, intéressant sur le plan conceptuel. Mais il faut vraiment lire le cartel pour savoir qu'il y a 2 photos qui ne sont pas de la même personne.
Oui, mais à prime abord, c'est une œuvre qui se regarde très bien, qui est très esthétique, hein, Pierre?
Oui, et on dit que quand il y a du soleil, l'image se percute sur le sol et crée une espèce de grande mosaïque colorée au sol, ce qui doit être très agréable. Mais hier, il y avait la pluie, donc on n'a pas pu vivre cet instant-là.
Ouais.
Alors, d'autre part, il y a l'artiste mexicain Julio Barita, qui, lui, propose une installation qui se compose de plusieurs objets, tel un cabinet de curiosité, sauf que c'est disposé sur une plateforme noire.
Magnifique.
Alors, l'idée, ça rime à la valeur de l'or. L'artiste a pris possession de 16,5 grammes d'or qu'il a échangé en argent, en dollars. Et il a obtenu l'équivalent de 185 $ pour sa pépite d'or. Alors, c'est avec cet argent qu'il s'est procuré, entre autres, une tête égyptienne, une tête de mort aussi qui trône sur une colonne, et plusieurs autres objets aussi. Et ces objets sont vraiment, ils sont dorés, mais c'est vraiment de la pacotille. Et ça suggère une fausse richesse. L'or, évidemment, est une valeur refuge de richesse matérielle, trop souvent aux dépens de valeurs morales.
Oui.
Et cette installation d'objets s'ajoute une bande sonore aussi qui est pas très, très perceptible, où l'artiste a enregistré des commentaires en espagnol d'individus qui s'expriment ou qui expriment leurs idées sur ce métal doré et aussi leur désir de richesse matérielle.
C'est ça. Autre œuvre tout de même, même si elle est composée de babioles, très esthétique, hein, sur un support noir.
C'est bien éclairé aussi. Il y a des réflecteurs qui mettent en valeur la dorure. Alors, au Centre de commerce international, c'est un petit écran vidéo sous un escalier qui a capté mon attention.
Mmh.
Il s'agit d'une réalisation en noir et blanc où une machine d'impression Canon est le sujet et on peut dire aussi l'acteur de cette vidéo. Il n'y a aucun humain qui apparaît et on entre vraiment dans un univers robotisé où les appareils s'actionnent automatiquement. On suit les étapes dans un certain mystère dont la finalité est une feuille de papier blanche qui vole dans l'air et qui disparaît dans une combustion spontanée. Alors, ça peut donner froid dans le dos d'appréhender un futur où l'humain est absent, ainsi que l'image témoin de sa présence, c'est-à-dire ici la photographie. La réalisation de cette vidéo-là est vraiment impeccable, avec de multiples angles de vue dans une sorte de travelling de synthèse où le noir et le blanc accentuent l'énigme de cette dystopie.
Oh, très belle présentation, Pierre. Ça nous projette.
Et on se déplace au Palais des Congrès, où se tient un centre de vaccination. On peut même solliciter pour se faire vacciner. On peut voir coller au mur deux photographies couleur de Catherine Melançon, qu'on a pu voir d'ailleurs il y a quelque temps au Centre Phi. Alors, il s'agit de bouquets de fleurs sur un fond noir qui exprime la durée de vie par une captation quotidienne du même bouquet dont le flétrissement s'accentue. Cette représentation du temps s'exprime par des languettes verticales qui sont juxtaposées et l'image du bouquet dont la dimension est d'environ 1 mètre par 1 mètre est malheureusement dans la pénombre. C'est dommage qu'elle ne soit pas mise plus en valeur. Par contre, à côté, il y a une autre photo du même type, de même bouquet, qui, elle, est d'environ 4 mètres par 4, et c'est là beaucoup mieux éclairé. Et ça se situe juste à l'angle du Grand Hall quand on tourne pour aller vers la station de métro.
Alors Pierre, oui, il n'y a pas que l'éclairage, c'est qu'elle est située vraiment en face de l'entrée du centre de vaccination. Là, les gens s'en vont tête baissée au centre de vaccination, mais malheureusement, cette œuvre-là ne bénéficie pas d'une visibilité suffisante, à mon avis. Hein?
C'est très malheureux, oui.
C'est très malheureux. Et c'est une artiste qu'on a découverte, toi et moi, Pierre, au Centre Phi, hein,
oui,
dans le cadre d'une exposition très spéciale.
Mais là aussi, des images en action, c'est-à-dire qui bougeaient, qui étaient vraiment fascinantes. J'aurais aimé ça en voir une dans cette exposition-là.
Exactement.
Mais évidemment, oui, les formats étaient beaucoup plus petits. Et le directeur a dit qu'il avait opté cette année pour des grands formats plutôt que des petits formats.
Ah, bon, d'accord.
Alors, finalement, dans le couloir, tout près de l'entrée du métro, il y a un immense photomontage couleur de Caroline Monet qui montre des femmes des Premières Nations, dont Mme Obomsawin et d'autres artistes aussi contemporaines. Le montage s'articule par bandes verticales où les personnes émergent de décors plus ou moins abstraits. Et cette juxtaposition des bandes de même largeur crée un rythme qui peut, entre autres, rappeler celle des tambourins qui permettaient de faire évoluer la danse, des danses ancestrales, ou aussi on peut penser au tissage que les femmes faisaient, des trames de tissage. Alors évidemment, c'est une vision un peu symbolique. Et j'avais fait déjà une entrevue avec Caroline Monnet lors d'une exposition présentée à l'Arsenal, où on pouvait voir, entre autres, une vidéo noir et blanc montrant un cargo qui glissait sur le fleuve Saint-Laurent, ainsi que des sculptures et installations et photographies dont l'esthétisme supporte une proposition identitaire, mais toujours avec élégance. D'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, on pourra voir un corpus d'œuvres de Caroline Monnet au Musée des Beaux-Arts de Montréal.
Oh oui, oui, oui. Nous sommes impatients de voir cette nouvelle exposition. Et tu participeras à une rencontre avec l'artiste, hein? Dans le cadre d'une visite de presse la semaine prochaine, Pierre.
Oui, voilà. Alors, j'ai bien hâte de voir ce qu'elle va présenter au Musée des Beaux-Arts. Alors, en conclusion, je dirais que cette version écourtée d'art souterrain, oui, dont le budget est de 600 000 $ quand même, est présentée en trois lieux. Et c'est beaucoup moins fatigant pour les gens, mais ça permet quand même de réfléchir sur des propositions d'artistes d'ici et d'ailleurs, et de nourrir à la fois nos yeux et notre âme de beauté étonnante ou séduisante.
Oh mon Dieu, quelle présentation très inspirante. Pierre, merci beaucoup d'avoir parlé de ta sélection d'œuvres d'art. C'est des œuvres qui se situent principalement à la Place Victoria et au Palais des Congrès, hein?
Et au Centre international aussi.
C'est ça, la Place Victoria, Palais des Congrès, mais non, mais au moins au Palais des Congrès, le public peut quand même aller faire visiter cet endroit-là jusqu'à 8 heures le soir.
Oui, cause du centre de vaccination.
Il y a un avantage à tout. Alors, merci beaucoup, Pierre, et je te souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouve très bientôt.
À toi de même et salutations à tous les auditeurs auditrices.
Oui, merci. Alors, et de mon côté, j'ai bien apprécié l'installation sculpturale Survivors de l'artiste mexicaine Monica Munoz, composée de monotypes sur tissu installé tel un paravent en plein couloir au Palais des Congrès. Et c'est un hommage aux passants anonymes du métro, libérés du temps présent et transportés dans une intemporabilité. Est-ce que, je ne sais pas s'il nous reste du temps, Robert, est-ce que tu voulais... Oui, il nous reste 2 minutes, si tu voulais ajouter quelque chose. Toi, tu t'es rendu au Centre de commerce mondial. Est-ce que tu voulais ajouter un mot ou deux? Toi, ton coup de cœur, oui. Il est surpris de ma question.
Oui. Oui. Moi, j'ai bien apprécié le vidéo noir et blanc dont tu as parlé, Pierre.
Oui.
Et puis, il y a des effets spéciaux, notamment, qui m'ont assez fasciné parce que je ne sais pas exactement comment ça a été fait, etc. Et puis, j'aurais aimé ça, avoir le réalisateur du document qui dure peut-être 10-15 minutes pour poser quelques questions. Et puis, par contre, dans le même centre de commerce mondial, il y a une chose qui m'a un peu déplu.
Toi, t'as pas été chanceux, c'est sûr, parce que tu as deux œuvres qui ne fonctionnaient pas lorsque tu as été visiter le centre de commerce mondial.
C'était des œuvres cinétiques, disons, le petit colibri dont parlait Lila, puis il y avait une sorte de fontaine à sable qui était installée en face de la fontaine, de la belle fontaine du centre. Mais alors, c'était un mécanisme qui devait aller chercher du sable et le déverser, mais évidemment, moi, quand
c'était
je suis
allé... C'était le sablier,
là. Oui. Quand je suis allé, ça ne fonctionnait pas. Le colibri ne fonctionnait pas non plus. Alors, de cinétique, il n'y avait finalement que le vidéo. Et puis,
un vidéo titré que tu as particulièrement apprécié, hein, Robert, de Tania Saint-Pierre, Philippe Aubert-Gautier, Intertype, vidéo animation 3D réalisée en 2019. Ouais. C'est à voir. Effectivement, j'ai été captivée, voire hypnotisée.
Ouais. Et puis, ça prouve une certaine maestria là, au niveau du contrôle de la caméra et de la prise d'image. Alors, c'est respectable.
Et
ce qui m'a moins plus.
Ce sont les œuvres qui ne fonctionnaient pas, heureusement, Robert, tu pourras y retourner parce que le colibri fonctionne et c'est absolument charmant.
Ouais.
Et nous avons rencontré l'artiste, nous l'avons même photographié, qui est en train de réparer son installation de sablier.
Que penser de l'œuvre intitulée Performance?
Oh, bien écoute, vas-y, Robert, ça ne t'a pas.
C'est parce que oui. La performance n'existe pas, en fait. L'œuvre s'appelle Performance, mais en fait, c'est une sorte de fumisterie, dans une gaminerie.
De Martin Lechevalier.
C'est que le cartel dit que la performance n'aura jamais lieu. Alors, revenez demain pour la performance, mais la performance n'aura jamais lieu. Je trouve ça un peu simple et un peu facile, mais enfin.
Alors, Robert, merci énormément de tes quelques commentaires. Voilà. Mais tu fais partie des malchanceux qui n'ont pas pu apprécier à 100% cette exposition-là au Centre de commerce mondial. Et ne manquez pas, cher auditoire, notre article à venir, un article spécial sur le Festival en souterrain dans quelques jours qui inclura une entrevue avec une des deux commissaires du Festival en souterrain, Nathalie Bachand, que nous avons rencontrée lors du lancement du festival. Alors, on fera un article spécial incluant l'entrevue avec Nathalie Bachand qui est justement la commissaire de cette œuvre tant appréciée, intertype, là, cette œuvre vidéo-animation dont on vient de parler. Alors, on passe en promotion.
Vous écoutez le magazine radio In Situ sur Radio Centre-Ville 102,3 FM à Montréal.
Forte de plus d'un siècle d'expérience, la maison Urgel-Bourgie-Atos a su, au fil des ans, s'ajuster à une société en constante évolution. Afin de vous permettre d'immortaliser vos souvenirs, Urgel Bourgie-Atos a conçu Scripta, un logiciel d'utilisation facile vous permettant de résumer en mots, photos, vidéos et chansons l'être cher, ce qu'il fut, ce qu'il fit, l'empreinte de sa vie. Urgel Bourgie-Atos voudrait aussi témoigner son soutien aux artistes visuels durement éprouvés par la pandémie. Urgel Bourgie-Atos pourrait ériger un monument dans sa mémoire. Dès le 1er avril et pour toute la durée du mois, une dizaine de caricaturistes de divers horizons vous convient à la boutique Georges Laune du 42 rue Saint-Denis, angle du Lutte, dans le cadre de l'événement Caricature pour changer le monde. La manifestation entend à la fois souligner la semaine d'action contre le racisme et le rallye Expo Vue d'Afrique. Parallèlement, c'est dans les locaux du 1396 rue Sherbrooke-Ouest, immeuble abritant le Musée des Beaux-Arts, que l'artiste Margot Godin présentera son exposition intitulée « Féerie sous la mer ». Très colorée, ses 20 œuvres de technique mixte, élaborées sur le thème des coraux, occuperont la boutique du 3 au 29 avril. Georges Laune Opticien, une entreprise familiale présente chez nous depuis 1983.
Me, don't give up on me, don't.
Quelle musique entraînante! On vient d'entendre Angélique Kidjo, chanteuse que j'adore, chanteuse béninoise, lauréate du Grammy Awards et de l'Académie Charles Cros, connue pour ses influences musicales puisées dans la diversité musicale et la créativité, est connue pour la créativité de ses clips et connue pour son engagement humanitaire, notamment à titre d'ambassadrice internationale de l'UNICEF. Alors, quelle femme marquante! Eh bien, nous avons choisi cette chanteuse, oui, tant pour ses talents, bien sûr, mais parce qu'elle est béninoise, pays en vedette d'un excellent film. Je vous dirais, écoutez, voyez ce film, Le retour d'une statue, en programmation de la 37e édition du Festival international Vue d'Afrique, qui propose 159 films, 146 en compétition, 13 hors compétition, en provenance de 51 pays, dont 33 pays africains. Et pour une première fois, il y a la Namibie et la Guinée équatoriale qui ont participé au festival. Et s'ajoute à cette proposition très généreuse une section « Regarde ici » qui réunit 20 films coproduits avec le Canada, dont 12 documentaires et un d'animation. Alors, Vue d'Afrique a aussi mis sur pied une chaîne de télévision sur le site de la page Facebook du festival animé quotidiennement par Éric Mboua. Mais le festival Vue d'Afrique, c'est aussi la possibilité cette année de bénéficier d'une plateforme de visionnement gratuit en ligne. Une centaine de films sont accessibles sur le site web et les applications pour mobile et télévision connectées de TV5 pendant 48 heures. Alors, c'est ça, c'est que vous consultez une grille et il y a plusieurs films là, dans cette grille-là chaque jour. Et chacun des films est diffusé pendant 2 jours. Et c'est ça, il y a un renouvellement en 2 jours, mais il reste encore 2 journées intenses de films que vous pouvez voir gratuitement sur TV5. Dans le cadre du festival, bien sûr, Vue d'Afrique. Alors, j'ai eu le grand plaisir de voir le film pertinent, hautement percutant d'actualité sur le sujet chaud de la restitution des œuvres d'art volées aux pays africains à l'époque coloniale. Alors, le film nous rappelle les événements du temps de la colonisation jusqu'à l'engagement du président de la République française, Emmanuel Macron, à restituer les œuvres pillées en 2017. Alors, ce film démontre l'ouverture stratégique de la France à la restitution. Par exemple, ce n'est pas par pure bonté, c'est parce qu'ils vont, par exemple, autoriser un prêt à long terme d'objets volés dans le but de négocier des ententes économiques, notamment avec la Corée du Sud. Hein. Alors, on traite aussi dans ce film des droits inaliénables, la question des droits inaliénables. Alors, les œuvres qui ne peuvent pas être cédées, auxquelles se heurtent les nombreuses demandes de restitution faites par les pays africains. Alors, les enjeux sont clairement exposés dans ce film, fort éclairant, notamment sur le fait que ces œuvres sont, on pense de plus en plus à les restituer. Pourquoi? Parce qu'elles sont de moins en moins courues par le grand public. Alors, voilà, encore une fois, ce n'est pas par pure bonté, par réponse à une demande de restitution, mais parce qu'elles sont moins en demande par le public, étonnamment. Alors, mais une œuvre résiste à toutes les demandes de restitution, celle du populaire, très populaire, Dieu Gou, que la France ne veut pas encore restituer, et pourtant cette œuvre est demandée. Elle est demandée, cette œuvre-là, en priorité par le Bénin lui-même. Alors, film captivant, Le retour d'une statue, que malheureusement, on ne peut plus revoir. Ça faisait partie de la programmation des 2 premiers jours, mais je vous assure que je vais suivre ce film de près et dès qu'il sera rediffusé, je vous informerai de ce film qui est à voir, que je recommande fortement. Et dans la section Regarde ici, je vous recommande le documentaire de l'ONF sur les traces de John Ware, de Cheryl Fogo, et ça, vous pouvez le voir aujourd'hui et demain, sur le réputé cowboy noir John Ware qui s'est établi en Alberta, au Canada et à la fin du 19e siècle, ainsi que la communauté noire qui a émigré dans l'Ouest canadien à l'époque. Alors, on suit les recherches de l'autrice, dramaturge et cinéaste primée Cheryl Fogo, qui a axé ses travaux sur la vie des Canadiens de l'Ouest d'ascendance africaine afin de revisiter la mythologie du personnage considéré rien de moins que comme un pionnier dans l'Ouest canadien en Alberta et qui côtoyait les Amérindiens de l'Ouest canadien. Alors, c'est un film qui a ses qualités et défauts, mais c'est de grand intérêt. Alors, je prévois voir d'ici dimanche les films suivants. La source des chimpanzés de Caroline Thirion, qui suit une biologiste dans son exploration scientifique à la rencontre des chimpanzés et dans le nord-est de la République démocratique Congo. Ainsi, il y a aussi « Parle la mer » de Arnold Antonin sur la thématique de la mer et de l'histoire du peuple haïtien qui va de découverte en prise de conscience.
Vous écoutez le magazine radio In Situ sur Radio Centre-Ville 102,3 FM à Montréal.
L'argent ne fait pas le bonheur.
Lancée le 1er mars, la campagne annuelle de financement de Radio Centre-Ville se poursuit jusqu'au 31 mai. L'argent recueilli servira non seulement à soutenir vos émissions préférées, mais aussi à contribuer au projet dit de la Grande Rénovation. Dans le cadre de ce projet, nous entendons rapprocher la radio de la communauté en déplaçant nos installations vers le rez-de-chaussée vitré donnant sur le boulevard Saint-Laurent. Cette campagne a été placée sous le patronage de Franz Benjamin et Ruba Gazal, élus sensibilisés à la cause. L'objectif est de 50 000 $. Pour effectuer un don, activez simplement le lien grande-rénovation.org. Donnez généreusement.
L'argent ne fait pas le bonheur. Nous, quand on nous dit ça, on ferait un malheur.
Alors, c'est tout pour cette édition de votre magazine Radio In Situ. Revenez-nous samedi prochain pour une autre exploration du meilleur visuel et je vous laisse en compagnie vraiment d'une magnifique interprétation.
Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith.